Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orechem, une tovim, les Shanim, les Aimim. Nous allons poursuivre notre étude sur la Ketoret. Et à présent, nous allons analyser les versets et essayer de commenter l'ensemble du texte qui apparaît dans le Sidour. Donc, après avoir dit le sacrifice du matin, Vaidaber Hashem, El Moshe, les morts, Tzav et Ben Israël, Vamartanem, Vakorbani, Lahmi, les Ishaï. Donc ça, c'est la paracha du Korban quotidien, du Tamid du matin et du Tamid du soir, qui précède toujours la lecture de la Ketoret. Mais la Ketoret elle-même, elle débute par ce paragraphe. Atahu Adonai Eloheinu. Tu es l'Éternel notre Dieu. Shikturo avoton lefanechet ketoret asamim. Bizman tu es betamidash kayam kasher sivita otam aliad Moshe. Donc ce paragraphe-là, c'est une introduction à la ketoret elle-même. Aliad Moshe nivar kato betorata. Ainsi qu'il est marqué dans la Torah. Déjà ce texte-là, ce paragraphe introductif, il contient déjà des secrets profonds. Atahu Hashem fait référence à la Chochma et à la Bina, qui doivent se lier. Shiktiru avotenu lefanecha, qui est nos pères, nos ancêtres, ils ont apporté cela devant toi. Quoi donc? La Ketoret Asamim. Et déjà, le mot Ketoret, ici, fait référence. Le mot Ketoret, il a valeur numérique de 11 fois le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Et il fait référence, ces 11-là, ce sont les 11 éléments que nous devons élever et détacher de la madrée pour les canaliser et les rétablir à leur place dans les sphères supérieures. Bismarck s'est fait ainsi à l'époque du temple. Alors, dans les versets, nous allons voir à présent les versets. Donc, il y a un verset essentiel. Voyons, mais Hachem et Moshe, Hachem dit à Moshe, Kahlecha Samim, prends pour toi Samim. Samim, nous avons dit que c'est le plus simple pluriel, c'est deux. Donc il y en a deux. Après, il en cite trois. Nataf, Ushelet, Vehelbena. Donc c'est trois. Et après, encore une fois, le mot Samim. Et donc le deuxième Samim, nous dit la Gemara dans Kritout et dans Orayot, qu'il vient ajouter cinq et pas deux. Parce que si c'est ajouté deux, le texte aurait dit Samim, Samim. Et en dernier, il est dit « Ulvona Zaka » et l'encens pur. « Bab de Vadie, tu les feras ensemble. » Donc ça, c'est le pasouk lui-même. Alors, nous remarquons que ne sont mentionnés explicitement que quatre ingrédients. Alors, quels sont-ils? Alors, on dit « Karalecha Nataf », c'est le baume. Après, il y a marqué « Ushelet Vehelbena », l'ongle aromatique. Le Helbena, c'est le galbanum, et l'encens pur. Alors, comme nous l'avons dit, il est dit deux fois le mot Samim, Samim. Donc, il vient un, c'est deux, et l'autre, c'est cinq. Parce que si le deuxième, il est comme le premier, il aurait dit Samim, Samim, et il aurait cité les quatre, ceux qui sont cités, il les aurait cités après. Voyons, Merachem et Moshe. Alors, nous allons expliquer le verset. Voyons, Merachem et Moshe, Kahlecha, Samim. Pourquoi est-il dit, Kahlecha, prends pour toi? Il est possible que la Gemara rapporte l'interprétation de Rabbi Yosha. Prends de toi, de ce qui t'appartient. Rabbi Yohanan dit, prends de la communauté. Alors, pourquoi est-il dit, prends pour toi, Kahlecha? Comme pour dire, c'est les tiens que je désire plus que les pleurs. C'est ton corban, c'est ce que toi tu apportes, Moshe, que je désire le plus. Le Ramban s'étonne du fait que la Torah ne cite pas les noms des 11 ingrédients. Alors il propose que les 4 cités sont indispensables et donc obligatoires. Et que leur poids doit être, les 4 là, identiques, comme on le verra plus loin. Ce sont eux qui forment le nuage. L'essentiel, c'est que quand on déverse la poudre sur la braise, il se produit un nuage. Les autres composants, ils sont laissés au choix des parfumeurs. Ça, c'est le Shitata Ramban. La seule conviction, c'est qu'ils aient une bonne odeur. C'est aussi la raison pour laquelle leur poids n'est pas mentionné. Alors on dit du baume, de l'ongle aromatique, du galbanum. Nataf ou shhelet de halbena. Rachid dit, c'est quoi nataf? C'est le baume. C'est le tsori qui est mentionné dans la Boraïta. Donc on voit que dans la Boraïta, quand on dit Tanou Rabanan, ils ont un nom un peu différent. Alors c'est tsori. Il s'appelle nataf parce que ça veut dire couler. Parce qu'il coule du goutte à goutte. C'est la résine qui goûte des baumiers. Le terme en français, Rachid ramène, c'est gomme, c'est la gomme. L'ongle aromatique, shahelet, Rachid dit, c'est une racine d'une plante aromatique, lisse et brillante, qui ressemble à l'ongle. Dans la Mishnah, elle est appelée tsiporin. C'est l'ongle, exactement. Tsiporin signifie l'ongle. Helbena, le galbanum, Rachid dit que c'est une plante qui dégage une mauvaise odeur. On l'appelle galbana en hébreu courant. Il entre dans la composition de l'encens pour nous apprendre à inclure les pécheurs dans toutes nos prières et dans toutes nos réunions. Comme la Gemara dit, Kol ta'ani d'enba mi pocha Israël et nos ta'anit. Quand on fait un jeûne ou on a une situation difficile et on veut faire, on réunit le peuple pour avoir la pluie, pour éliminer, on fait un jour de jeûne pour que s'il y a des souffrances ou des problèmes, il faut inclure dans cette réunion les poches à Israël, ceux qui fautent. Sinon, c'est pas. Donc, le galbanum qui a une mauvaise odeur, il est inclus dans l'encens. Après, Samim Ulvona Zaka Badvadier. Alors, on dit divers parfums et de l'encens pur. Donc, il y a ici encore des parfums en plus, c'est 5. Ils seront Badvadier, ils auront le même poids. Donc, le deuxième parfum, c'est 5. Comme nous l'avons dit plus haut. Et chacun d'entre eux pèse 70 manées. Vasitaota ketoret rokarma serokear. Le mot ketoret signifie lié, attaché. Tu en feras une préparation d'encens selon l'art du parfumeur. Le parfumeur maaser rokear. Savoir procurer, faire ta. C'est-à-dire, les parfumeurs, ils savaient moudre les encens, chacun d'une certaine manière, de sorte que chaque. Que la poudre procure une odeur, le parfum le meilleur. C'est ça le mot le roquear. Ça implique que chaque ingrédient s'intègre parfaitement aux autres composants pour ne former qu'un seul produit. Donc ça c'était le savoir, le secret du savoir de ces gens-là qui savaient, des familles de Kohanim qui savaient, Bet Aftinas, qui savaient de manière parfaite, et qui possédait l'art du parfumeur. Memoulard d'Aor Kodesh, bien mélangé, dans la sainteté, pure et sacrée. Memoulard, ça veut dire mélanger, ça veut dire, c'est comme on dit, mala, ça veut dire ramer. Le mot Memoulard fait allusion, il fait aussi allusion, mélanger, comme les rameurs, malachim, comment on appelle les marins, on appelle malachim, parce qu'ils ils rament. Et quand on rame, les rames mélangent l'eau et bougent l'eau. Donc c'est la notion de mélanger. Ça fait aussi obtenir un mélange parfait et homogène. On ne doit pas avoir l'impression que dans cette poudre-là, dans ce mélange-là, il y a plusieurs éléments mélangés. Et le même moulard fait référence aussi qu'il faut ajouter du sel. Dans toutes les préparations, il faut ajouter du sel. Kadosh, moulard, taor, kodesh, pur, saint. Toute la préparation doit se faire à l'intérieur du temple. C'est ça le secret qui a marqué Tahor Kodesh. Avec quoi on achète la ketoret? Avec le mahasit à shekel. Donc à partir de Hadar, on paye le mahasit, on commence à annoncer le mahasit à shekel. Et en Nissan, quand on a ramassé le mahasit à shekel, on commence la nouvelle avec cet argent on a porté les commandes, donc c'est l'année elle commence avec un nouvel impôt. Mais tu la réduiras en poudre très fine. Le mélange était, alors qu'il faut mélanger et à nouveau le moudre très finement. Rambam dit que la poudre de l'encens était remise dans le mortier deux fois par an, de sorte qu'il fallait l'aérer, pour pas qu'elle pourrisse, puisqu'on l'a préparée le jour de Rosh Chodesh Nissan. Et on l'a gardée toute l'année, donc il fallait l'aérer de temps en temps, donc on la remettait dans le mortier pour la moudre à nouveau, pour l'écraser à nouveau. Et tu en feras, et tu en poseras devant le témoignage dans l'attente d'assignation. Benatata memena, lifna aedut beuel moed. Lifna aedut devant, sur le misbeh hazav. Sur l'autel d'or, comme il est dit dans la Torah, tu construiras, ve'asita misbeh mirktar ketoret. Pour faire monter l'encens en fumée. Alors, si l'autel n'existe pas, alors on peut faire, s'il n'y a pas d'autel, s'il n'y a pas le misbeh hazav, on fait par terre, à l'endroit de l'autel, on peut le faire, comme la Gemara dit dans Zvahim. Là où je te rencontrerai, c'est le lieu de la sainteté, là où je rencontre, là où vous pouvez me rencontrer. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est là où Akadosh Baruch Hu, c'est là où Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe. Et c'est lui, Aaron, qui devra brûler l'encens de ses parfums chaque matin, quand il arrangera, il allumera les lumières de la menorah. C'est alors qu'il brûlera la ketoret. Donc ça, c'est la mitzvah de brûler la ketoret tous les matins, un demi-mané, sur l'autel, le misbeach hazahab. D'ailleurs, qui s'appelle le misbeach haketoret. De la répétition baboker baboker, on apprend que l'encens précède le sacrifice quotidien. Le sacrifice quotidien marqué baboker. Un matin, une fois matin. Donc, et alors, avant le corban du tamid du matin, on faisait la ketoret. Il précède. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu dans le Zohar, il faut déjà réparer, éliminer les forces néfastes, que le corban y soit agréé. C'est pour ça que nous, on fait la ketoret avant la prière. De cette même répétition, Rabbi Hanan explique que l'allumage du candélabre était effectué en deux temps. Alors, de cette même répétition, la Gemara, dans Psahim, elle dit ça, et dans Kritout. Le Kohen allumait d'abord cinq lumières, après il faisait le Ketoret, et après il terminait les deux dernières. La Torah utilise à ce sujet deux termes pour parler de l'allumage de la menorah. Le matin, il est dit « Atavat Anerot », et le soir, il est dit « Adlakat Anerot ». Alors, Rambam, il dit qu'il faut allumer la Shitata Rambam, c'est que la menorah est allumée le matin et le soir. Il y a d'autres qui disent, Rashi, Rashba et plusieurs commentateurs, ils disent, le matin le Kohen préparait les lampes éteintes, en les nettoyant, en les changeant, celles qui sont éteintes. Il les préparait, il changeait l'huile, les mèches, pour qu'ils puissent, soient prêtes pour être allumées le soir. Donc d'après Rashi et Rashba, on allumait la menorah que le soir. D'après Rambam, on allumait le matin et le soir. Et le Zohar semble confirmer, comme nous l'avons vu dans les cours sur le Zohar, que le Rambam, c'est le Rambam qui a priori, c'est que ça confirme la vie du Rambam. Ou ba'alot Aaron et Anerot ben Arba'im yaktirena. Et quand Aaron montera les lumières du soir, il brûlera. Alors l'allumage du soir se faisait aussi en deux temps, comme le matin. Cependant, c'est pendant cette interruption que l'on brûlait la ketoret. Comme on a vu le matin, Rambam est aussi de cet avis. Mais pour d'autres commentateurs, l'allumage du soir se faisait en une fois. D'autres qui disent que ça s'allume en une fois. On brûle alors l'encens avant l'allumage. Si on, d'après ceux qui disent que le soir, l'allumage se faisait les sept d'un coup, les sept nérodes de la menorah d'un coup, alors quand est-ce qu'on allumait? On faisait la ketoret avant d'allumer. Ketoret tami lifnei Adonai le dorotechem. La ketoret est un encens perpétuel devant Akadosh Baruch Hu pour toutes les générations. C'est-à-dire de là on a appris que la récitation, même s'il n'y a plus de temple, la récitation de la ketoret a valeur d'offrande, comme si qu'on l'a offert. La ketoret était brûlée tous les jours, et même Shabbat, les jours de fête, les jours de Kippour, où il y avait une ketoret supplémentaire comme on le verra plus tard. Allusion à la lecture quotidienne des textes de la Ketoret, matin et soir. Donc, comme on l'a vu dans le Zohar. Ça, c'est le texte de la Torah, la paracha elle-même. À présent, nous allons voir le sens de la baraita. Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignés. Cette baraita se situe dans la Gemara, dans l'Ankritout. La Gemara Kritout, à la page 6b. Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignés. Pitoma ketoret ketsad, comment préparer l'encens? Pitoum, ça veut dire là, le fait de moudre, de mélanger, de faire en sorte que les différents éléments y soient, comme nous l'avons vu, un mélange homogène. Alors il dit, les sages ont qualifié, sont qualifiés de maîtres, par des Tano Rabbanan, les maîtres ont enseigné, uniquement parce qu'ils enseignent et transmettent le savoir. Donc pourquoi on dit Rabbanan? Parce que Tano, ils nous ont enseigné. Le verbe enseigner précède, comment je sais que tu es un maître? Parce que tu enseignes. Pour ça que le Tano, ils ont enseigné nos maîtres. Nos maîtres ne sont maîtres que parce qu'ils enseignent. Pitoum a ketoret ketsal. Le mot pitoum a le sens de piler, écraser. Mais aussi, il signifie dégager une odeur, faire en sorte que l'odeur se dégage. Alors, c'est le savoir-faire du parfumeur qui permettait d'obtenir un mélange parfait. Cette odeur parvenait, à l'arrivée, nous dit l'Agmara, jusqu'à la ville de Jéricho. Le fait de répandre la poudre de l'encens sur la braise se dit aussi pitoum. Donc le mot pitoum, il a ici un triple sens. Il veut dire piler, écraser, savoir faire, non seulement écraser et piler, mais savoir faire le mélange. Et en plus, ça signifie verser la poudre obtenue sur les braises. Une préparation, donc ça veut dire c'est une préparation qui permettra une diffusion parfaite de l'odeur. La Mishnah rapporte, de Jéricho on sentait l'odeur de la Ketoret. Rabbi Eliezer ben Degala dit, les chefs des troupeaux de mon père éternuaient à cause de cette odeur. Les chèvres, qu'est-ce que ça veut dire là? Il nous raconte cette histoire. Les chèvres, c'est Izim, ça c'est le sens, le mot Izim fait référence à la vigueur. Les clipotes, comme le mentionne la Gemara, les chèvres symbolisent les clipotes, comme la Gemara dans Shabbat le dit, les chèvres, elles marchent en tête, Izim. Et les brebis viennent-elles en second? Pourquoi? C'est comme lors de la création du monde. D'abord l'obscurité, puis la lumière. Allusion aux écorces. Donc les chèvres, les chèvres, ils éternuaient, ça veut dire qu'ils étaient maîtrisés, les rigueurs, les méchancetés, toutes les choses néfastes, ils étaient apaisés. Ils éternuaient, c'est-à-dire ça les apaisait, ils perdaient leur force. On remarque aussi que le texte de la Braïta ne rapporte pas de détails sur le service même, comment la Ketoret était offerte dans le temple. La Braïta, tout cet enseignement-là, il ne détaille que la fabrication, que la préparation. Et c'est ça l'essentiel, parce que nous n'avons plus justement la possibilité d'offrir. Donc l'essentiel, c'est pas offrir, c'est tout ce qui précède avant, c'est ça qui est le sens du mot pitoum. Alors cette ketoret annuelle, le poids global de la ketoret, il était composé de 368 manés. Alors, un mané équivaut à 100 dirhams, le dirham est égal à 1, le dinar à 100 dinars. Le dinar, il est égal à 1,5 dirhams, ça fait environ, donc le mané, il a un poids environ de 480 grammes environ, disons demi-kilo. Donc là, la mesure de 368 manés n'est pas mentionnée dans les versets. Il n'est pas marqué combien il fallait faire dans le verset. Alors, Rabbi Eliezer de Metz dit que c'est une loi, c'est oral, donc c'est l'enseignement oral. Alakha le Moshe Misinaï, combien il fallait que chaque élément, de sorte que chaque élément, il donne le maximum, c'est-à-dire la proportion de chaque élément dans le mélange global. Ça, c'est Alakha le Moshe Misinaï. Le poids total de la ketoret annuelle était de 176 kg, 640. Il y a 368 manées. 365, à quoi il sert? C'est les 365 jours de l'année solaire. Donc, un mané par jour, une demi le matin et une demi le soir. Ici, il y a lieu de s'interroger. Dans le calendrier, notre calendrier, il est un calendrier lunaire. Donc les années, elles ont ou 354 jours, quand il y a 11 mois, quand il y a 12 mois dans l'année, quand il y a une année en boulismique, ça veut dire qu'on rajoute un deuxième mois de Hadar, il y a 30 jours en plus, ça fait 384. Mais jamais l'année juive n'a 365 jours. Jamais. Le calendrier, il est, on compte les années, c'est-à-dire on va compter les années selon le soleil. De sorte que, quand il est nécessaire, on rajoute un mois. Comme il est dit, mais l'année elle-même n'est jamais solaire. Donc 354 jours de l'année, donc on préparait cela, l'encens, le premier jour du mois de Nissan. Et donc, si on avait préparé 354 manées pour toutes les années communes, et le Bédine décide d'ajouter un deuxième mois de Hadar, on ne pouvait pas. Donc c'est pour ça qu'on préparait plus, 365 manées. Et comme les années, donc il y a environ 10 manées de plus pour une année commune. Alors ça, c'était gardé en prévision d'une année où il y avait un 13e mois. Donc on accumulait ça. En général, le 13e mois, il était tous les 3 ans environ. Donc il y avait de quoi faire en plus. Il est rappelé qu'à l'époque du temple, il faut se souvenir qu'à l'époque du temple, le calendrier n'était pas calculé, mais chaque mois était fixé selon la vision des témoins. Donc chaque mois, on ne savait pas quand est-ce que l'année elle va, est-ce que le mois c'est aujourd'hui ou demain, ou bien on attendait que les témoins arrivent. Et que est-ce que l'année elle va être de 12 mois ou de 13 mois, ça aussi on ne savait pas. C'était à la dernière minute, le mois de Hadar, on voyait si il commençait à faire chaud ou il était encore l'hiver. Alors si c'était encore l'hiver, alors on ajoutait un mois. Alors un mané par jour, un demi-mané le matin, un demi-mané le soir. Alors, c'est ce qu'on appelle, certains disent pras, c'est la moitié d'un mané. Les trois mesures restantes, donc il y a trois mesures, 365 pour les 365 jours de l'année, mais il y avait trois en plus, 368 nous avons dit. Alors ça c'était pour offrir le jour de Kippour, la Ketoret supplémentaire qui concerne le jour de Kippour. Ou Josha Manim et Terim, Shemem, Machnis Kohen Gadol, Velotelmem, Melochavtav Yom Kippourim. Donc c'est ce que et la mesure de la Ketoret spécifique de Kippour qui était offerte à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, elle n'avait pas de mesure, elle était selon ce que les pommes des mains du Kohen Gadol pouvaient contenir. Donc environ c'était un mané et demi, etc. Environ. Alors et la veille de Kippour, le Kohen Gadol les remettait dans le mortier pour les moudre à nouveau, parce qu'il y a marqué pour la Ketoret de Kippour, il fallait qu'elle soit Daka Mina Daka. Déjà, la Ketoret, en général, est marquée Daka. Et là, Hadek Hetev, alors il dit Daka Mina Daka. Et elle devait être, comme il est dit, Velakar, Melo, Amahta, Gahalesh, Meala Misbea. Milifina Hashem, Umlochovnav, Ketoret, Samim, Daka. Ça, il s'agit ici, ce verset-là, il concerne la Ketoret spécifique de Kippour. Donc ici, il y a marqué Daka. Et l'autre aussi, elle était Daka. Donc on voit que celle de Kippour, elle devait être à doublement fine. Très bien. Encore on poursuit. Alors après, il est marqué. Et voici les 11 composants des simanim qui sont mentionnés. Alors il y a ici 11 aromates ont été transmis à Moshe au Sinaï. Ravuna demande de quel verset apprend-on cela? Alors le verset, c'est le verset qu'on a cité. Samim, Nata, Samim. Après il dit Levona. Donc ça, on a appris déjà ça. La Gemara donc crie tout à la page 6. On poursuit. Alors il y a ici, alors qu'on dit Atzori, Atziporim, Vehelbena, Vehalevona, Mishkal, Shivaim, Shivaim Mané. Donc Atzori, c'est le baume, nous avons dit. Atziporin, c'est du girofle. Le halbena, c'est le galbanum. Et de l'encens, l'encens pur, un poids de 70 pour chacun. Donc en tout, ça fait 280, nous avons déjà dit ça au préalable. Alors ça fait ici, entre les 280 que nous avons cités, plus les autres qui viennent après. Alors après, il y a marqué on ajoute Mor, Shivim Shemane, Mor, Uksiav, Shiboler, et Hakom. Donc il y en a quatre autres qui ont chacun 16. Donc ça fait 64. Donc ici on a une allusion dans Shira Shirim, c'est le Pardes. Le Pardes, Pardes. Par, ça fait 280. Et Des, ça fait 64. Donc 4 fois 70, 280. Et 4 fois 16, 64. C'est le dîme. Donc ici, ça fait allusion au Pardes. C'est-à-dire, le Pardes, c'est le verger de la connaissance. C'est-à-dire, c'est la perfection dans la connaissance des sphères supérieures. Alors, après, Mor, Ursia, Veshib, Bolerner, Mor, c'est de la myrte. Ursia, c'est la casse aromatique. Shibolerner, Vechakom, une branche de nard et du safran, un poids de 16 manés pour chacun. Donc, comme nous l'avons vu. Après, on rajoute à coche et les massas. Le coche, il s'agit d'une racine blanche. Son odeur est magnifique et se répand au loin. 12 manés, ça fait 5,7 kg à peu près. Kilo fâche le chat, kina mantisha. L'écorce aromatique, 3 manés. Et la cannelle, il y avait 9 manés. C'est la kiloufa. Une écorce d'arbre très odorante. Certains disent, comme le Shilter Giborim, qui a fait de nombreuses recherches pour définir les ingrédients de la ketoret, ils pensent qu'il s'agit de la cannelle. Le kinamon serait une autre espèce. On ne sait pas quoi. Donc le kinamon, il fait un poids de 3 manées. Le kinamon se traduit par cannelle selon Rambam. C'est du bois qui vient, c'est Oud el Indi. C'est le bois indien. La Gemara rapporte que depuis la destruction du bois, du temple, le bois de Kinamon a disparu. Bon. En tout, 9 manées. Borit, alors après, donc on a conclu ici les onze composants. Mais après, on rajoute d'autres choses. Borit, Karchina, Tisha, Kabin. Après, on rajoute plus. Du savon de Karchina, 9 caves. Pour quoi faire? Donc, c'est pas des manées ici, c'est des caves. Alors, cette plante, on l'utilisait pour laver le linge. Borit, c'est du savon. Alors, il dit, savon, borit, on l'utilise pour laver le linge. Comme l'écrit le Targum à propos du pasuk de Job. Il y a marqué, im e hasbab baneter, si je me lave dans la neige fondue, et je purifie mes mains avec de la potasse. Boba, babo. Et Targum traduit à Allah. En fait, c'est une plante appelée en arabe savon. Et savon, ça vient de au Moyen Âge, on utilisait cette plante qui poussait sur les cours d'eau, elle s'appelait la saponaire. Alors saponaire, c'est un terme gaulois qui signifie saponaire. Mais comme en arabe le peu n'existe pas, alors c'est devenu sabon. Et après ça se, parce que toutes les lettres qui prennent un PS en arabe se transforment en B. Alors après, c'est devenu savon. Cette plante n'était pas mélangée à la préparation, mais servait à frotter, nettoyer l'angle aromatique de ses impuretés. Du vin de cafricine. Il y a une cafricine, c'est une telata avec cabine telata. 3 CA et 3 caves. C'est soit du vin fort, qui vient d'un endroit appelé cafricine, c'est Chypre, soit du vin dans lequel on faisait tremper des capres, d'après Tosafot dans Betsa. La troisième explication, avant qu'on avance, que ce serait du vin de capre en vérité. Donc on faisait du vin avec des capres. Donc il y avait 3 CA, 3 caves, qui font environ 19 kilos. Si on ne trouve pas de vin cafricine, on doit apporter du vin blanc vieux. Alors parce que ça possède les mêmes propriétés que le vin de cafricine qui servait à tremper l'angle aromatique pour la purifier. Après, on ajoute mélarcédomite, rova. Et on mettait un quart de cave de mélarcédomite dans toutes les oblations, dans toutes les ménahot, dans toutes les offrandes, il fallait mettre du sel. Ma'ale hachan, kocheou. Donc, cette plante, ma'ale hachan, il n'y avait pas de mesure. Kocheou, un petit peu. Cette plante permettait à l'encens de ne pas brûler immédiatement. Dès qu'elle touchait les braises, elle retardait la combustion de la poudre pour qu'on obtenir une nuée de fumée. De plus, cette plante avait la propriété de faire en sorte que la fumée s'élève comme une poutre droite. Ainsi canalisée, cette fumée ne se diffusait pas de manière désordonnée. La Gemara dans Yoma rapporte que c'est la famille des Aftinas qui était la seule à connaître le secret de cette plante. Donc eux, ils ont refusé d'enseigner cela, ce secret, de crainte qu'après la destruction du temple, ce savoir soit mis au pot, soit utilisé dans des choses négatives. C'est à leur sujet qu'il est dit, le Zecher Tzadik Libracha, le souvenir des justes est une bénédiction. On poursuit. Rabbi Nathan à Babel Omer, Rabbi Nathan de Babel, il dit, Av kippa tayardin koshéou. Qu'est-ce que c'est ce kippa tayardin? La kippa du Jourdain, de quoi s'agit-il? Aussi, il fallait mettre un tout petit peu. Alors, ici, une grosse marloquette ici sur kippa tayardin. Alors, il y en a qui disent que c'est une plante qui pousse sur les rives du Jourdain. Rachid dit ça. Rabbi Nathan de Rome, il dit, dans Arour, il dit que certains pensent que c'est des déjections de poissons. Alors, en vérité, il dit qu'on appelle ambre. Alors, c'est quoi l'ambre? C'est le cachalot. Alors, le cachalot, il peut pas vivre dans le Jourdain, voyons. Alors, Rabbeinu Gershon et Ramban rapportent aussi cet avis. La Gemara dit au sujet de Jérusalem, on n'y fait pas de jardin ni de verger, sauf des jardins de vridim. Et que l'on traduit, verette, c'est la rose, on peut traduire par rose. Rashi utilise cette expression en disant que cette plante était nécessaire pour la kétorette. On l'appelait kippat hayarden. Donc ils disent que c'est kippat hayarden. Rabbi Abraham Portaléon, dans Shiltia Giburim, il dit, et c'est difficile tout ça. Au sujet de l'ambre, c'est le cachalot, l'ambre grise qui fait en fait une déjection intestinale du cachalot. Animal qui ne peut pas vivre dans le Jourdain. D'accord? Au sujet de la rose, il dit qu'elle poussait dans la ville de Jéricho, qui est éloignée des rives du Jourdain. De plus, si c'est une plante que l'on ajoute à la préparation de la kétorette, il y aurait alors plus que 11 composants. Alors, pour toutes ces raisons-là, lui, il dit que ce kippa tayarden, c'est l'écume séchée qui servait qu'on mettait dans le mortier quand on pilait les éléments, de sorte que les éléments ne collent pas entre eux. Imnatan bat des vaches spéciales. Là, on n'a pas le droit d'y rajouter de miel. Alors, de miel, comme il est dit dans le passage, qui rôle des vaches, l'otakiro, mais chez l'an, on n'a pas le droit de sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, ni de miel, ni de levain. Or, est-ce qu'il s'agit du miel d'abeille ou bien même du miel des fruits? Alors, en vérité, les deux sont interdits. Donc, il faut voir ça dans les poskim, minhatrinour, et ils discutent de ce problème-là. S'il manque un des éléments, c'est-à-dire qu'il a oublié un des composants, alors le Kohen qui fait ça, il est Hayav Mita. Et Hayav Mita, quand il offre la kétorette. Nous allons conclure ici la première partie de la Baraita. Donc nous sommes arrivés. Selon Rashi, il s'agit uniquement de la kétorette du jour de Kippour. Car le Kohen Gadol pénétrait alors dans le Kodesh HaKodeshim. Si la kétorette n'est pas valable, il pénètre pour rien dans le Kodesh HaKodeshim. Alors il est Hayamita. S'il veut, alors, c'est-à-dire que parce que tu n'as pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodeshim, comment? Qui te permet de rentrer dans le Kodesh HaKodeshim? Par la Ketoret. Qui Béhanan et Raël à Kaporet. Ça, c'est la raison pour laquelle qui mentionnait dans Rashi. Il y a d'autres avis qui pensent qu'il peut s'agir aussi de la Ketoret quotidienne. S'il ment, le Rambam s'appuie sur cette Gemara, sur la Gemara que nous allons citer. Il dit la Gemara en main, il semble qu'offrir une Ketoret impropre à l'utilisation fasse encourir la mort. Et sans rapport avec l'interdiction de pénétrer dans le Kodesh HaKodeshim, ça veut dire que faire une Ketoret qui est invalide, qui est impropre, qui n'est pas agréée, donc si par exemple même la Ketoret quotidienne, alors il s'appuie sur cette Gemara-là pour dire que c'est même sur la Ketoret quotidienne, sans rapport avec rentrer dans le Kodesh HaKodeshim, si il manque un élément, le Kohen il est Hayav Mita. Alors, il faut faire attention ici aussi que quand on prononce la kétorette aussi, il faut faire attention de ne pas sauter un élément. Il faut les compter avec la main. C'est pour ça que dans certains livres, ils sont comptés. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11. Et certains, quand ils lisent, ils les comptent avec leurs doigts, de sorte de ne pas en oublier un. Parce que de la même manière que quand on offrait la Ketoret, s'il en manque un, on est passible, Hazé Shalom, le Kohen était passible, Hayav Mitabi des Shamay. La même chose si on lit la Ketoret et on oublie un élément, Hazé Shalom aussi. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen. Fin de la première partie.